11h, 12h30.
Anne Roumanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1. Elle est tellement sexy qu'elle donnerait des bouffées de chaleur à la canicule, la brûlante Léa Landau.
Rien que ça, bonjour à tous.
Enfin bonjour.
S'il survit à cette grosse vague de chaleur, ça veut dire qu'il est fin prêt pour l'été, l'incombustible Didier Porte. Ouais. Dis bonjour.
Bonjour.
10 ans après, il ne s'en remet toujours pas. Pour lui, Michael Jackson n'est pas mort. Il vit tranquillement sur la lune avec Elvis, Kurt Cobain et les Forbans. Jean-Philippe Cuisinier.
Oui. Les Forbans, oui. Bonjour les amis, bonjour à tous.
Il ne supporte pas la chaleur. Il va encore se balader chez lui, habillé comme Mowgli dans le livre de la jungle, Sauvageon Belache.
À poil. Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
Et celle qui, pour préserver le climat, a décidé de ne plus prendre sa voiture et de ne se déplacer qu'en Uber. Elle a un problème pour chaque solution, Anne Roumanoff.
Au sommaire de cette émission, Didier Porte nous dira ce qu'il a retenu de l'actualité de ces derniers jours. À 11h30, nous recevrons le monsieur Jardin de Télématin, Philippe Collignon, pour son livre Simplissime, le livre de jardinage le plus facile du monde, paru aux éditions Hachette. Jean-Philippe Mézini s'est essayé au jardinage, il nous racontera ce que ça a donné. Et à partir de 11h50, Absa Toussi sera notre invité pour son livre Made in France, qui vient de sortir aux éditions Hugo Doc. Ben H évoquera son parcours. Et Léa Landau lui a préparé une interview franchouillarde.
11h, 12h30, Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Le thermomètre va grimper jusqu'à 40 degrés par endroit cette semaine. Comment allez-vous vous adapter à ces fortes chaleurs ?
Alors, moi j'ai un moyen très sûr d'évaluer la dangerosité de la température ambiante. J'appelle ma maman qui est âgée de 93 ans et n'habite pas loin, tous les 2 ou 3 heures. Tant qu'elle répond, c'est que je ne suis pas dans la zone à risque.
Mais vous êtes horrible.
Ah, c'est une blague.
Bah, embrassez-la, votre maman.
Je l'embrasse.
Maman, je t'aime.
Non, non, pas possible.
Comment ?
Non, non, elle est désagréable.
Elle vous écoute ?
Elle m'a martyrisé pendant des années.
Mais non.
Je suis sûre que non.
Je suis sûre que vous êtes chouchou à sa maman.
Pas d'effusion publique.
En tout cas, c'est pour les fortes chaleurs que tu as fait une coupe d'été, Didier ?
J'ai fait une coupe
d'été. Oui, ah oui, oui.
Ben, on va dire ça. Voilà.
Oui, ça vous va fort bien. Il est coquet, il aime bien les compliments.
Ouais, ouais.
Ben H, la chaleur ?
Moi, bah, comme à chaque canicule, ma solution, c'est de vivre complètement nu et de prendre un maximum de douches froides dès que je peux.
Ça fonctionne ?
Bah, pas trop, les gens refusent de faire rentrer chez eux un mec à poil qui veut squatter leur salle de bain.
Est-ce que vous allez prendre des douches chez les autres ?
Bah, pourquoi pas ?
Jean-Philippe, vous avez une technique pour la canicule ?
Ah, moi, j'ai une technique qui marche à tous les coups pour me refroidir. Je regarde une photo de ma belle-mère. Bah, ça me refroidit direct.
C'est méchant.
Que j'embrasse.
Mais c'est trop facile, vous dites et vous embrassez.
Dis-lui que tu l'aimes, toi.
Oui, dites-lui que vous l'aimez, votre belle-mère.
Oui, mais oui, je lui dirai.
Dites-lui, là.
Mais là
allez, c'est la fin de la saison, parlez à votre belle-mère.
Je t'aime. Comme un fou, comme un soldat.
C'est quoi ton prénom ?
Bernadette.
Babette.
Babette, alors allez-y, Babette, je t'aime.
Babette, je t'aime.
Je suis heureux d'avoir une belle-mère comme toi.
Tout ce que t'es prêt à faire pour signer, toi, c'est dingue.
Parce que tu la tutoies, ta belle-mère ?
Bah, quand même. Elle habite chez moi 6 mois par an.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Nicolas Sarkozy publie jeudi le premier tome de ses mémoires politiques, un ouvrage de 350 pages. L'ancien président, qui vient d'en terminer la lecture, s'est dit impatient de lire la suite. Une Américaine a gagné plus $1 million grâce au mukbang, une pratique qui consiste à se filmer en train de manger pour le diffuser sur les réseaux. Bon, ok, c'est officiel, je comprends strictement rien au 21e siècle. La prochaine étape, c'est quoi ? Devenir milliardaire en se filmant en train de respirer ? Époque à la con, oui. Commentaire de Christophe Castaner face à l'épisode caniculaire en cours. Super, avec un peu de chance, on va pouvoir faire l'économie d'une énième réforme des retraites. Non, il l'a pas dit, mais il en serait capable.
Canicule cette semaine, faites attention à vos personnes âgées, elles sont les plus sensibles. Pour preuve, nous on a installé dans les studios un frigo à la taille d'Anne Roumanoff pour pouvoir la refroidir entre 2 pics de température.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Léa Landau, Didier Porte, Ben H, Jean-Philippe Vizini et 2 de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour pour 4 personnes au parc Astérix en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Vizini, Léa Landau, Ben H et Didier Porte qui s'est coupé les cheveux et qui est magnifique. J'ai pas peur de le dire.
Ah ben voilà, vous cherchez une évidence, vous aviez dit une rencontre.
Oui, mais Didier Porte, je le connais
plus.
Mais je le plus connais.
Non, mais surtout, il est bien, Didier. Il a sa femme, tout va bien.
Bah oui,
mais un renouveau, ça serait bien.
Et tout va bien. Pourquoi vous vous focalisez sur moi?
Non, mais. C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Jean-Philippe?
Devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Romanoff.
Devinez qui je suis.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités. Aujourd'hui commence le Marathon des mots, le Festival international de littérature de Toulouse Métropole. Vous devez deviner des personnalités sur le thème de la littérature. Et à gagner cette semaine, Partout à Tisse. C'est l'été gaulois au Parc Astérix du 13 juillet au 18 août, cette semaine sur Europe 1. Tentez de gagner votre séjour et venez profiter des 47 attractions et spectacles du parc. Découvrez la nouvelle attraction Attention Menhir et le spectacle nocturne estival Le ciel vous tombe sur la tête. Repartez avec votre séjour au Parc Astérix. Offre valable pour 4 personnes, 2 jours et une nuit en demi-pension. Plus d'infos sur www.parcastérix.fr. On joue d'abord avec Laurence. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Oh. Mais qu'est-ce qu'elle a?
Elle vient d'accoucher ou quoi?
C'est l'heure de l'apéro?
La littérature française, non!
Comment?
Non, rien, tout va bien.
Mais vous dites si on vous dérange, hein.
Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de faire quoi là, Laurence?
Là, je vous attendais en fait avec impatience, voilà.
Donc, vous avez 52 ans, vous faites des remplacements dans le commerce, vous habitez à Oullins dans le 69?
Oui.
Et vous... Oui, et vous êtes mariée depuis 5 ans en Australie avec un Australien.
Oui, exactement. Et je parle anglais tout le temps, donc le français m'a été très difficile.
Ah bon, comment vous faites pour parler anglais alors? Racontez-moi.
Mais parce qu'en fait, mon mari est australien, donc on s'est rencontrés dans la langue anglaise. Donc on parle anglais toute la journée, enfin toute la journée quand je suis à la maison, bien sûr.
Et il est venir en France, vivre en France par amour pour vous?
Oui, exactement.
Et il ne regrette pas?
Ah bah non.
Non, il ne regrette pas. Il aime beaucoup la nourriture, il aime beaucoup le fromage, tout ce qui est gastronomie française, il adore ça.
Du coup, il a grossi alors?
Il va partir en vacances avec Didier.
Comment?
Il a maigri?
Il a maigri en fait.
Ah bon?
C'est fou, ouais.
Parce que les Australiens mangent n'importe quoi.
Oui, exactement.
Et ça fait combien de temps qu'il est en France?
Ça fait 4 ans.
Et il parle français maintenant?
Pas beaucoup.
Comment? Il est là? Passez-le nous.
Oui, il est là. Attendez, je vais vous dire. Dan, come here and wants to talk to you.
Ah, j'adore son accent, Laurence.
Hello.
Hello, Dan.
Hello.
Hello. How do you do?
Very well, thank you.
Where is Brian?
Do you like Friends?
Yes, very much.
Yes?
What do you prefer in France?
The food.
Le sud, il préfère le sud.
Bien sûr.
And, cuisine.
And you met love, where did you meet Laurence?
In Australia.
In Australia? Qu'est-ce qu'elle foutait en Australie, Laurence?
What was she doing in Australia at this time?
She was with family.
Ah, elle était avec sa famille en Australie, et là vous êtes rencontrés, et ça a été love at first sight?
Vraiment.
Carrément?
Presque.
Are you training to speak French or not?
Yes, I'm doing a course in French.
Okay.
Ah ben là, il faudrait que vous essayiez de parler français avec nous alors.
Oui, peut-être. Je comprends, mais je parle pas très bon. C'est la grammaire.
Vous nous repassez, Laurence?
Oui, bien sûr.
Goodbye.
Goodbye.
Voilà.
Vous avez vu comme on est bilingue.
Hein. Ouais. C'est charmant l'accent en tout cas.
Laurence, vous choisissez la liste 1 ou la liste 2?
Moi je prends la 2.
La 2, et vous jouez avec qui?
Alors je vais jouer avec Léa.
Ah. Il faut deviner des écrivains français.
Alors là c'est le pire.
Comment ça c'est le pire?
Non, je connais pas du tout les écrivains.
Les anciens écrivains, quand vous étiez jeune, vous les connaissez?
Non, parce que j'ai pas fait l'école française du tout, je connais pas du tout, ça va être très marrant.
Bon bah alors bon, on est désolé, mais essayez quand même. Vous êtes prête? Attention, top chrono.
Celui qui a écrit Le Petit Prince.
Saint-Exupéry.
Oui, voilà. Celui qui a écrit Les Fleurs du Mal.
Maupassant, non.
Non. Un autre. Bon, c'est pas grave. C'est celui qui vend le plus de livres. Il a écrit Et si c'était vrai?
Lévi, non?
Oui, c'est ça. Elle cartonne en ce moment avec Vernon Subutex. Ça a été adapté en série. Une auteure? Non, c'est l'autre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? To be or not to be, qui a dit ça? L'anglais?
Ah, to be or not to be, who said that then? Bloody hell. Shakespeare?
Bah, oui, 20 milieux sous les mers, c'est qui?
Ah, Jules Verne.
Oui, oui, elle est accordée. 4 bonnes réponses, c'est pas si mal.
Quand même.
Oh la vache. Et vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas trouvé Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal et Virginie Despentes.
Oui, en fait, c'est Virginie Despentes.
Oui, mais c'est, ouais. Vous n'avez pas trouvé Virginie Despentes.
Bon, il faudrait que je lise. Okay.
Bon, en tout cas, 4 bonnes réponses. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien en littérature, c'est pas si mal, Laurence.
Ouais.
Bon, merci.
On va voir comment se débrouille Maxime. Maxime a 19 ans. Bonjour, Maxime.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez 19 ans, vous passez le bac L. Enfin, vous venez de passer le bac L. Vous habitez à Paris dans le 12e.
C'est ça.
Comment ça s'est passé, le bac, alors ?
Bah, ça s'est passé assez bien. J'avais bien aimé l'épreuve de philosophie, qui était vraiment super cool.
C'était quoi, le thème ?
Le thème, moi, j'ai choisi « À quoi bon expliquer l'art ? » Mais on avait aussi...
« À quoi bon expliquer l'art, oui. » Et alors, vous avez dit que c'était quoi ?« À quoi bon ?» Ça servait à quoi d'expliquer l'art ?
On peut résumer les 10 pages que j'ai faites en disant qu'on ne peut pas finalement expliquer l'art et que tout dépend de notre conception du beau.
Oh, pas mal.
Ah ouais. Le mec, vous êtes le genre de mec qui se la raconte un peu, non ?
Non.
Parce que je vais pas expliquer les 10 pages. Non, mais genre quoi.
C'est tout 10 pages, c'est pas beaucoup.
Bah si, c'est pas mal. Et alors qu'est-ce qu'il y a eu d'autre au bac ? Ça s'est bien passé, le reste ?
Il y a histoire, géographie.
Ah là, vous faites moins le malin là. Je sens que c'est on sent.
Là, il y a pas eu 10 pages.
Il
hein.
Y a eu la 4e ou 5e République en histoire comme d'habitude.
En histoire, on a eu les médias et l'opinion publique depuis l'affaire Dreyfus.
Ah ouais,
rien à voir. Et en géo, les États-Unis.
Et en géo, la compo, c'était sur l'ONU, sur la paix dans le monde.
Et là, vous avez eu un peu de mal.
Un petit peu, mais ça va, c'était sur des cartes. Donc c'était sympathique, c'était agréable.
Vous allez faire quoi l'année prochaine, Maxime ? Vous le savez déjà ?
Je vais rentrer dans une école de commerce l'année prochaine, faire un peu de commerce.
Bon, Maxime, vous êtes prêt à jouer ? N'écoutez pas ces cloportes. Vous êtes prêt à jouer, Maxime ?
Je suis prêt à jouer, ouais.
Avec qui ?
Comment ?
Avec qui ?
Avec Léa.
Mais non, elle a déjà été choisie.
Bien joué.
Ça peut être Jean-Philippe, Ben H, Didier Porte.
Didier Porte ou Anne ?
Je veux bien Anne, alors.
Oh là là. Je vais faire moins dans ma ligne.
C'est facile, Anne.
Ouais. Vous êtes prêts ?
Je suis prêt.
Top chrono. L'auteur de Notre-Dame de Paris ?
Victor Hugo.
Oui, et la petite Fadette.
La petite ?
Fadette, l'auteur de La petite Fadette, une femme qui avait une grande histoire d'amour avec Musset. Le grand auteur français de théâtre, Les Précieuses Ridicules, l'Avare, Les Femmes Savantes. Oui. Il a écrit Thérèse Raquin, les Rougon-Macquart. Oui, très bien. Elle était la femme de Jean-Paul Sartre. Elle a écrit Le Sexe Faible.
Je sais pas.
Quoi ? Bon, c'est une grande auteure de romans policiers anglaise.
Simone Beauvoir ?
Oui. Et l'auteur de...
Okay,
très bien. Le mari de Simone de Beauvoir. Vite !
Mais c'est bon, il a 5.
Comment qui ?
Oui, il a dit Jean-Paul Sartre.
Jean-Paul Sartre, moi.
Comment tu t'énerves après lui ?
Non, Simone de Beauvoir, faut pas rigoler avec ça. Hein.
Attends, il y a 6 bonnes réponses. Bon, ça va. Mais non, mais...
Mais faut pas s'énerver.
Mais Georges Sand, quand même.
Bah enfin, et Zola, t'as vu ce que tu cites pour Zola ? Dis-lui Le Rouge et le Noir, il trouve en 2 secondes.
Mais c'est pas Zola, il a pas écrit Le Rouge et le Noir, pauvre banane.
Oui, c'est Stendhal.
Qui ? C'est Stendhal.
Oh là là.
Moi j'ai fait un bac L, s'il te plaît.
Hein. Mais moi j'ai fait un bac S, faut pas trop m'en demander.
Qu'est-ce que vous avez fait comme bruit, Maxime, là ?
Voilà, oh non, juste, non, mais au départ j'avais confondu avec Honoré de Balzac qui avait écrit les conditions humaines. Et...
Bon, en tout cas.
Alors que la condition humaine, c'est Marc Lévy, tout le monde sait.
Non, c'est.
Non, mais je rigole.
Non, c'est Émile Zola, justement.
En tout cas, bravo.
Bravo. Et Georges Sand, bravo. La petite Fadette, hein, je vous recommande de lire quand même. Georges Sand.
Quel grand homme.
Georges Sand, qui était la maîtresse d'Alfred de Musset. Non, mais je sais pas, là, vous me décevez.
Bon, enfin, ça va, il a fait 6 bonnes réponses.
Bon, vous avez gagné, Maxime.
Bah, merci beaucoup.
Waouh, bravo. Ouais,
alors, je dois vous dire ce que vous avez gagné. Maxime, vous avez gagné Partout à Tiss à l'occasion de. C'est pas moi qui dois. C'est écrit sur ma feuille. Vous avez gagné Bravo Partout à Tiss à l'occasion de l'été gaulois au parc Astérix du 13 juillet au 18 août. Vous avez gagné votre séjour. Vous pourrez profiter des 47 attractions et spectacles du parc. Découvrez la nouvelle attraction Attention Menhir et le spectacle nocturne estival Le ciel vous tombe sur la tête. Offre valable pour 4 personnes, 2 jours et une nuit en demi-pension. Plus d'infos sur www.parcastérix.fr. Vous allez partir avec vos amis pour fêter le bac, j'imagine.
Ah oui, je vais fêter la fin des examens. Je vais partir avec Sabrina. Si je peux faire une petite dédicace, Sabrina ou Babe.
Babe.
Avec, ouais, voilà.
Sabrina, c'est votre copine.
Sabrina, c'est ma meilleure amie, ouais.
Ouais.
Et puis
elle, elle est pas loin de moi, elle est à côté là.
Ah bon.
Bravo Maxime.
On vous embrasse tous les deux.
Bah, merci beaucoup, on vous embrasse aussi, toute la rédaction de Europe 1, je vous adore vraiment.
Vous êtes au top.
Et vous êtes au top.
Merci, merci à tous les deux. Laurence, on vous embrasse. Et nos merci amitiés à Dan.
Merci, merci à toute l'équipe aussi.
Au revoir Laurence.
Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Landau, Benna, oui. Jean-Philippe Bizini et Didier Port qui nous dira ce qu'il a retenu de l'actualité de ces derniers jours.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bizini, oui, Léa Landau, Benna, Didier Port. Vous savez qu'aujourd'hui, la députée La République En Marche, Agnès Thil, est convoquée devant la commission des conflits pour ses propos sur la PMA qui pourrait lui valoir son exclusion du mouvement. Est-ce que vous avez été déjà exclu de quelque chose ou de quelque part ?
Ouais, moi, une fois, je me suis fait virer d'une fête. C'était une fête en plein air, mais les gens, ils étaient hyper coincés. Dès que je mettais la musique à fond, les gens, ils faisaient la gueule.
Mais c'était où, cette fête ?
Je sais pas, il y avait une pancarte, il y avait marqué « Le Père Lachaise ». C'est pas d'ambiance, je vous conseille pas.
Ben H ?
Ouais, plus jeune, voilà, j'ai pas honte de le dire, j'étais un petit militant, mais très vite je me suis fait exclure du Parti Socialiste.
Ah bon, pourquoi ?
Bah à l'époque j'avais des idées de gauche, pas compris.
Didier Porte, vous m'avez dit être allé à la pêche aux petites phrases qui tuent ces derniers jours. Qu'est-ce que vous avez ramené ?
Alors la plus belle, on la doit à Maître Dupont-Moretti qui a déclaré à propos de son client, le maire de Levallois, dont le procès pour fraude fiscale et corruption vient de s'achever. Balkany, ce n'est pas que de la fraude, c'est aussi une grande pudeur. Il a raison, quand on a comme M. Balkany le souci sincère de la dignité des petites gens, notamment de celle des employés des contributions directes, on n'a pas envie d'humilier ces derniers en leur agitant sous le nez des déclarations qui pourraient leur paraître provocatrices. Sacré Dupont-Moretti, on espère pour vous, maître, que l'immense pudeur que vous avez invoquée à propos de Balkany ne sera pas perçue par ses juges comme du grand foutage de gueule de votre part. Sa condamnation pourrait s'en trouver aggravée. Autre petite phrase de la semaine, elles sont plusieurs et on les doit à Brigitte Macron. À propos de son mari, il travaille sans arrêt, on pose des questions, il répond à ses questions, il trouve des solutions. La vache, c'est pas un homme, c'est un robot. En fait, non. Toujours selon Brigitte, le président chez nous, c'est l'Atlas, ce dieu qui porte tout seul la voûte terrestre à bout de bras. Hein, comme quelques secondes auparavant, Brigitte avait indiqué « Nous sommes totalement fusionnels », je m'inquiète. Faudrait pas que sous couvert de fusionnalité, elle se croit autorisée à le chatouiller sous les aisselles, ce brave Atlas qui nous tient à bout de bras, ça pourrait très mal se terminer pour nous. Donc, selon son épouse, Emmanuel Macron n'est pas un robot, ce n'est pas non plus un dieu vivant, on le sait depuis la fin de sa période Jupiter Junior, terrassé par la foudre jaune, c'est juste un titan, car Atlas n'est pas un dieu. Il faudra que Brigitte révise sa mythologie grecque, mais un simple titan, lequel, fort de sa réputation de gros bosseur, comme tous les autres titans, s'apprête à sucrer la totalité de leurs indemnités à 240 000 chômeurs, présentés partout comme des profiteurs du système, pour la cause desquels personne ne bougera le petit doigt quand ils sombreront dans la pauvreté, pure et simple. Convainquez-le d'y renoncer, Madame Macron, et on dira que vous avez accompli une tâche titanesque.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Alors, le covoiturage à la mode, voici des phrases à ne pas dire quand on fait du covoiturage.
Une phrase à pas dire quand on vous prend en covoiturage. Oh, ben moi, que je monte devant ou derrière, ça change rien, je suis toujours malade en voiture.
Allez-y, montez. C'est sympa d'avoir de la compagnie pour faire le trajet. Au fait, vous allez faire quoi à Bordeaux ?
Je vais voir mon fiancé, et vous ?
Moi, je vais passer mon permis.
Si vous voulez manger des sandwichs ou fumer, ne vous gênez pas, faites ce que vous voulez.
Ah bon, mais vous avez pas peur qu'on abîme les sièges ?
Non, je m'en fous, c'est une voiture volée.
C'est bon, tout le monde a mis sa ceinture ? Ok, bon, on sera à Nice dans 3 heures.
3 heures ? Mais il y a 700 km !
Ouais, mais moi j'ai amorti le voyage, hein. Je fais covoiturage et go fast. D'ailleurs, en mettant votre sac dans le coffre, j'espère que vous avez fait attention à pas abîmer la drogue.
Allez-y, installez-vous. Je suis content d'avoir un peu de compagnie pour le voyage. Ça vous dérange pas si on parle ?
Ah, vous êtes bavard ?
Non, dépressif. Mais je prends bien mes médicaments. Alors, en route.
C'est bon, vous avez mis votre ceinture, les portières sont bien fermées, ok.
Ben, vous démarrez pas ?
Ah, surtout pas, il faut faire une pause toutes les deux heures. Alors, on fait la première avant de partir, je suis prudente.
Oh, j'espère qu'il y aura pas de policiers sur la route, hein.
Pourquoi, vous avez plus beaucoup de points ?
Ah non, j'ai surtout plus de permis, et j'ai paumé le faux que j'avais acheté la semaine dernière.
Bon, je vous préviens, j'aime pas les gens. Alors, pas de parlotte, pas de manger, pas de reniflage de nez. En gros, le premier que j'entends juste respirer, il passe par la portière, c'est compris ? À part ça, bienvenue à vous, dans ma voiture, et bon trajet à tous.
Europe 1. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Landau, Jean-Philippe Vizini, oui, Ben H, Didier Porte, et notre invité Philippe Collignon, surnommé le Monsieur Jardin de Télématin, pour son livre simplissime, le livre de jardinage le plus facile du monde, qui vient de sortir aux éditions Hachette.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Vizini, oh, Léa Landau, Ben H. Et notre premier invité qui est paysagiste de formation, chroniqueur, journaliste, réalisateur. Oula. Il est bien connu des téléspectateurs de France 2 puisqu'il est le Monsieur Jardin de Télématin. Il vient nous présenter Simplissime, le livre de jardinage le plus facile du monde, avec des conseils, des astuces, mais aussi des créations originales pour tous les types de jardins. Bref, comment planter sans se planter. Merci de faire une haie d'honneur à Philippe Collignon.
Ouais. Merci.
Bonjour Philippe Collignon. Alors c'est votre passion le jardinage depuis toujours ?
Depuis l'âge de 5 ans avec mon grand-père, on a jardiné et puis voilà, c'est ma colonne
vertébrale. Parce que vous êtes né dans un HLM, il n'y avait pas de jardin ?
Ben non, c'était plutôt à la verticale et puis après je me suis mis à l'horizontale mais au vert. Mmh. Voilà, donc
comment à 5 ans on s'intéresse déjà au jardin, aux plantations ?
Ben, en fait, à l'époque, on avait des jardins familiaux, on appelait ça des jardins ouvriers, on n'avait pas grand-chose à faire.
Ah, donc il y avait un petit carré quand même, il y avait un petit carré potager.
Oui, il y avait un petit carré, même un grand carré, parce que c'était vivrier à l'époque, on s'alimentait avec notre
potager.
Notre potager, voilà, donc, voilà. Et puis, c'est devenu une passion. Et à 10 ans, je connaissais les noms latins par cœur avec les ventes, les magazines de ventes par correspondance, voilà. Puis après, j'ai fait mes études là-dedans.
Paysagiste de formation, prof dans un lycée agricole et horticole.
Ouais, plusieurs lycées à Lyon, en tout cas. Et après, j'ai commencé sur Télé-Lyon Métropole, une chaîne locale. Après, il y a eu Coucou, c'est nous avec De Chavannes. Et puis.
Merci
et puis,
papy, alors.
Hein, pardon ?
C'était merci papy.
Merci papy. Merci papy.
Alors, comment on passe quand même de professeur d'horticulture à la télévision ? Alors, comment ça s'est fait ? Parce que vous êtes à Lyon, vous êtes professeur dans un lycée agricole. Et comment vous vous retrouvez maintenant à la télévision ?
Alors, j'ai pas couché, Anne. C'était à l'époque.
On vous a pas proposé,
c'est ça ? En plus, je suis hyper timide, moi. Hein. Ah, vous savez, Anne, je suis assez timide. Et à l'époque, il y avait une chaîne qui s'appelait Télé-Lyon Métropole, une chaîne locale, avec de la moquette et une caméra. C'était Gérald Brice à l'époque, donc aujourd'hui, il est quand même président de Canal.
Gérald Brice Viret, qui dirigeait ça.
Oui, bien sûr. Gérald Brice, qu'on salue. Et en fait, à l'époque, il me dit oui, viens faire une chronique, etc., etc. J'y suis allé avec un bocal, parce qu'à l'époque, c'était comment. Je m'intéressais aussi aux animaux. Comment faire vivre son petit poisson rouge ? Et en fait, il y avait Louis Chédid, il dit viens là. Et Louis Chédid était passionné d'aquariophilie. Et là, il m'a dit, je t'embauche en direct.
Qui vous a dit ça ?
Gérald Brice.
Ah
donc
oui ?
J'ai commencé comme
grâce
ça.
À Louis Chédid.
Grâce à Louis Chédid. Et puis ensuite, 3 mois plus tard, j'envoie mon CV à Christophe De Chavannes, sans y croire. Et la prod m'a appelé, je suis monté et il m'a embauché en direct, Christophe. Et chaque semaine, je passais dans le monde mystérieux de la nature, un peu autour de la sexualité. Parce que, voilà.
Sexualité des animaux.
Et des plantes.
Parce qu'eux, ils en ont une au moins.
Surtout les plantes.
Surtout les plantes.
Et puis voilà, après, il y a eu France 2, France 3, etc.
Alors parlons de ce livre. Il y a des conseils. Créer un jardin au bureau, un problème, une solution. Créer un jardin zen. Créer une jardinière pour l'apéro. C'est quoi ça, une jardinière pour l'apéro ?
Vous mettez quelques tomates apéritifs, un peu de basilic, etc. Puis vous vous servez directement du consommateur au producteur.
Pas d'olive, ça pousse pas ça.
Non. Les oliviers poussent dans la région parisienne.
Créer un massif de fleurs anti-moustiques, anti-bobo et bonne posture. Créer une palette fleurie d'été.
Ouais.
Ça c'est quoi, des fleurs qui poussent toutes seules ?
Ouais, c'est des fleurs qui vont fleurir pendant à peu près 6-7 mois.
Ah,
donc,
ça m'intéresse.
Voilà, je au cœur de l'hiver. En fait, l'idée avec ce bouquin, on prend 5 plantes, 5 façons de voir les choses, on les assemble et ça nous fait quelque chose de sympa, un peu comme la cuisine, quoi.
Moi, il m'arrive un problème, là. Ouais. J'ai acheté
allez-y.
Chez... J'ai acheté chez Franprix dans des pots de jute.
Ouais.
Ils avaient une belle photo de tomates et donc, en fait, c'était des graines, il y a de la terre qui était fournie.
Ouais.
On mettait et en fait, ça faisait des belles tomates et j'ai acheté des fraises aussi. Et en fait, je les ai mis dans ma cuisine. J'ai fait comme ils m'ont dit, j'ai humidifié.
j'ai mis du plastique par-dessus.
Oula, ouais.
Et, mais ils l'ont dit, c'était marqué dans le mode d'emploi.
Ouais, ouais.
Et il ne se passe rien.
Non, il ne se passe rien.
Ça pousse
on
pas.
Ne nous dit pas tout, il ne se passe rien. Et surtout, on ne nous dit pas tout quand on est en jardinerie. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est à mettre sur le balcon. Il faut qu'il y ait de la lumière naturelle.
Mais ils ne l'ont pas dit. Ils m'ont
ben
dit
non, mais ils ne l'ont pas dit, mais parce que. À l'extérieur, il y a à peu près 100 000 lux. Quand vous êtes dans un appartement, il y a à peu près 3 000 lux. Il y a 97 000 lux de différence. Donc il faut un peu de lumière
non,
quand
mais
même.
Mais dans son appartement, il y a beaucoup de lux.
Il y a beaucoup de lux. Donc, avec un E en plus.
Donc là, je sors mes trucs de jupe, là, je les mets sur le balcon.
Oui, mais là, c'est un peu trop tard. Je pense que la graine.
Elle est morte.
Elle est morte.
Ah bon ?
Bah, oui.
Elle a combien de temps pour sortir la graine ?
Oh, bah, maximum une semaine, 10 jours. Hein, ça dépend
ah,
de la chaleur.
Je me suis fait avoir parce que j'ai dépensé 9,95 € et 8 euros.
Bah, va te faire rembourser.
Vous reprenez votre petite toile de jute, votre petite panier de jute, et vous allez vous faire rembourser.
Non, mais je ne vais pas faire ça.
Mais tu l'as acheté il y a combien de temps ?
Il n'y a pas de raison.
Il y a 15 jours. Ah, je ne vous pousse pas.
Ah, ça peut peut-être
non,
se
mais
sauver 15
mieux,
jours.
Lorsqu'on veut avoir des tomates, etc., on achète les plants et c'est beaucoup plus facile.
Non, mais là, c'était tout fait. Il y avait le pot, il y avait.
Il y avait la photo tout, surtout.
Oui, il y avait la photo qui était belle.
Oui, bah, gardez la photo. Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Philippe Collunion. Vous nous parlez de son livre simplissime, le livre de jardinage le plus facile du monde, aux éditions Hachette Loisir. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Bizini, Léa Landau, oui, Ben H et notre invité Philippe Collunion venu parler de son livre simplissime, le livre de jardinage le plus facile du monde. Alors c'est vraiment une collection simplissime, il y a la cuisine et là il y a le jardinage et c'est pour les gens nuls qui ont du mal, là il y a des photos, tout est expliqué, c'est vraiment pas compliqué, ça c'est bien.
Petit pas à pas pour avoir la main verte.
Mais quand on n'est pas... Et alors quand on reçoit un bouquet de fleurs.
Oui. Alors. Je crois que je vais venir chez vous, Anne.
Ah, mais je veux bien que vous veniez sauver mes plantes.
Habitez-moi, je viens.
Alors, quand on sort un bouquet de fleurs et qu'on le met dans un vase, il faut couper les tiges.
En fait, pour le garder
en
longtemps.
Biais.
Voilà,
et mettre du doliprane.
Il faut. Oui, ouais, non, c'est pas obligé. Non, l'idée, il y en a qui mettent du doliprane, il y en a qui mettent de la javel, il y en a qui mettent une pièce de 5 centimes en cuivre. Oui, il y a plein de trucs. Mais l'idée, c'est en fait de changer l'eau tous les jours parce que l'eau se trouble. Et une fois qu'elle se trouble, ça veut dire qu'il y a des bactéries. Et ces bactéries, elles vont boucher les pores des tiges et donc la plante ne va plus absorber l'eau. Donc les fleurs vont mourir plus tôt.
Donc tous les jours, il faut changer l'eau des plantes.
Tous les jours, il faut changer l'eau et couper légèrement la tige.
Non, mais j'ai que ça à faire.
Ah ouais. Bah ouais, mais si vous voulez avoir un bouquet qui dure longtemps, c'est comme ça.
Mais c'est quoi le rapport avec le doliprane ou
la
pièce ?
Parce que le doliprane ralentit un peu le développement bactérien.
Ça,
donc ça, vous avez une eau qui se trouble moins rapidement, etc.
Ah ouais.
Mais bon, ça, c'est. Faut changer l'eau.
Oui,
moi, j'en mets du Smecta, ça marche bien aussi.
Exactement.
Philippe Collunion, pouvez nous donner une petite recette pour les gens, par exemple, qui auraient juste même pas les gens qui ont un balcon, les gens qui ont
un rebord de fenêtre.
Un rebord de fenêtre. Un truc ultra simple et pas cher. Pour les
tomates, pour l'apéro.
Vous voulez l'entretenir ou pas ?
Non.
Sans entretien, vous plantez des sédums, ce qu'on appelle des crassulas, des petites plantes qui sont un peu grasses, qui résistent à tout, à moins 40 degrés, à plus 70 degrés.
Les crassulas ?
Crassulas, tout ce qui est crassulacé. Et ça
c'est
fait des petites fleurs,
grasses.
Ça fait des petites fleurs jaunes, rouges, etc. Vous avez des milliers de variétés. Et ça, ça se met sur le rebord de fenêtre, ça ne s'arrose pas et vous êtes tranquille.
Ah bah ça, ça me plaît.
Voilà.
Et à l'intérieur, on n'a pas une dans le même genre.
À l'intérieur, il y a, si vous voulez, des plantes d'intérieur qui soient costauds. Vous avez la langue de belle-mère, qui est increvable. Vous avez la plante des concierges, qui est increvable.
Ouais. C'est quoi la plante des concierges ?
La plante des concierges, c'est ce qu'on appelle l'aspidistra. C'est une plante à feuilles vertes, un petit peu lancéolées.
Elle n'est pas très belle.
Qu'on mettait souvent dans le temps, dans les halls d'immeubles, parce que là, quand il y avait du passage. Et ça, c'est increvable.
Jean-Philippe Vizini. C'est essayer au jardinage, Philippe Collunion.
Bah oui, parce que j'ai la chance, vous savez, d'avoir un petit pavillon de banlieue avec un petit bout de jardin.
Oh là là, il a un mât.
Mais n'importe quoi.
Dans le 78, avec une piscine, un jardin.
N'importe quoi.
Le fils, venez, c'est bizarre.
Du coup, j'essaie tant bien que mal de jardiner un petit peu. Alors, on a fait plein de choses dans ce jardin. On a acheté une ruche, par exemple.
Il est magnifique, ce jardin.
On a acheté une ruche, taisez-vous. On a acheté une
ruche. Il empêche ses enfants de jouer au ballon parce qu'il a peur que ses enfants abîment les plantes.
Ça, c'est normal.
C'est normal.
Il jette son rosé dans ses fleurs. Est-ce que ça, c'est normal ?
Mais n'importe quoi.
C'est normal.
Tout le monde s'en fout.
Allez, vas-y.
Donc, je vous expliquais mes petits malheurs. Voilà, on a acheté, parce qu'il n'y a pas que le jardinage dans un jardin. On met des choses. On a acheté une ruche pour faire du miel. Nous, la ruche, on l'a mise devant la maison. Le facteur, il l'a confondue avec la boîte aux lettres. Et ben, ça fait 3 mois, on est sans nouvelles du facteur, nous. J'ai acheté aussi une tondeuse à gazon, parce que ça, quand on a de la pelouse, il faut l'entretenir. Je l'ai rangée dans le garage, la tondeuse. 2 jours après, je la trouve plus. Je demande à ma femme, t'as pas vu la tondeuse à gazon? Elle me dit, je l'ai prêtée à ma mère. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas allée voir l'esthéticienne. Elle s'en sortait plus avec son rasoir. On avait un arbre énorme qui nous faisait beaucoup d'ombre. Du coup, j'ai acheté une tronçonneuse. Alors, la tronçonneuse, elle, là, que j'ai achetée, elle marche nickel. Hein. L'arbre, il est tombé direct. Bim, dans le jardin. Hein, pas dans le mien de jardin, dans celui du voisin, il est tombé. Oh, le mec, il gueulait. Hein. Il est où, mon chien? Il est où, mon chien? Il était dans le jardin. Je lui dis, bah, il doit être sous l'arbre. Si vous voulez, on va essayer de le chercher en déblayant un peu l'arbre avec la tronçonneuse. Alors, on a débité l'arbre, j'ai coupé l'arbre, et au final, j'ai coupé le chien. Voilà. On a fait un potager 100% bio. Alors là, il est nickel. Pas d'insecticides, c'est super. On mange autant de légumes que d'insectes. On a planté des salades, mais alors les salades, on s'est tout fait bouffer par les limaces. Du coup, bah, on a mis des produits chimiques pour faire fuir les limaces.
Ah bah non.
Et bah, ça marche très bien. Les enfants, ils ont mangé la salade. Bon, bah, bonne nouvelle, c'est qu'on va faire des économies. Plus besoin de les emmener chez le coiffeur, ils sont devenus chauves tous les deux. Alors, vous voyez, Philippe Collignon, je suis pressé de pouvoir lire votre livre, Le jardinage le plus facile au monde, car j'en ai vraiment besoin.
Merci beaucoup, Philippe.
Merci, Anne.
Merci. On se retrouve dans quelques instants et c'est Absa Toussi qui sera notre invité pour la dernière partie de cette émission. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Léa Landau, oui. Ben H et notre bonjour. Invité de ce matin qui a monté sa première entreprise à 24 ans et depuis tout lui réussit, des plateaux télé à sa marque de cosmétiques. Son parcours est la preuve qu'à cœur vaillant, rien d'impossible, même quand il s'agit de répondre avec élégance à la grossièreté de certains personnages. Entre une vie de famille qui s'agrandit et une vie professionnelle bien remplie, elle a trouvé le temps d'écrire son nouveau livre Made in France dont elle va nous parler. La business woman que rien n'arrête, Absa Toussi est avec nous aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Absa Toussi.
Bonjour Anne.
Bienvenue sur Europe 1. Alors ce livre raconte votre parcours. Comment vous avez fait pour réussir? Laissez-moi deviner, sans travaillant.
Ah oui, beaucoup.
C'est un témoignage ou c'est un manuel pratique? Parce que si c'est un manuel pratique, je vais l'offrir à tous mes chroniqueurs pour qu'ils le lisent cet été.
Je réponds même
boss,
pas.
Nous. Alors, il y a eu beaucoup de travail, Absa Toussi, derrière votre réussite?
Énormément de travail, surtout, je pense, à la détermination, parce que c'est vrai que les choses n'étaient pas gagnées d'avance. Mais je pense que de toute façon, quand on veut réussir dans la vie, quand on veut avancer, ça nécessite du travail, ça nécessite de la prise de risque. Parfois, on tombe, et c'est normal de tomber, parce que si on reste sur sa chaise, on tombe pas, mais on s'ennuie. Et moi, j'avais envie de ne pas m'ennuyer, j'avais envie d'avoir cette boule d'adrénaline en permanence dans le ventre. Et surtout, j'avais envie d'être là où je voulais être, et pas là où la société voulait que je sois.
Et la chance, ça arrive un peu aussi, ou c'est que du travail?
La chance en fait partie. Mais je pense qu'on la suscite, on la crée aussi cette chance. Ça veut dire qu'on bouscule les choses, on va à la rencontre des bonnes personnes. Il y a une chose que je disais déjà dans mon premier livre, c'était le réseau par exemple, c'est le culot. C'est le fait de traverser la pièce, d'aller voir une personne à laquelle on a envie de demander un conseil ou quelque chose. Et là, on risque quoi? On risque un non. Un non ne tue pas.
Mais des fois, ça fait de la peine les noms.
Ouais, ça fait de la peine, mais ça ne tue pas. Et je pense que quand vous grandissez dans un environnement où vous n'avez pas de réseau, où vous n'avez pas les portes ouvertes dès le départ... Il faut y aller, il faut défoncer les portes.
Vous parlez du déterminisme social justement dans ce livre.
Oui, je dis que petite, effectivement, quand je regardais la télévision, les femmes noires, elles étaient toutes femmes de ménage, ou en tout cas, elles étaient toutes dans des familles en détresse, ou dans des familles compliquées. Les familles heureuses, elles étaient toujours blanches, les chefs d'entreprise étaient toujours des hommes. Donc j'avais pas des moyens, moi, de m'identifier à cette réussite, ouais. Voilà, à ce bonheur, même à l'amour. Je veux dire, l'amour n'était pas pour moi à la télévision. Et donc, je suis allée chercher ailleurs. Je suis allée chercher dans mon imaginaire. Je suis allée chercher à l'étranger. J'avais un cahier des rêves que j'ai encore aujourd'hui à 38 ans.
Ah oui, un cahier des rêves.
Chaque année, j'ai un cahier où je colle dedans tout ce que j'imagine faire, tout ce que j'aimerais avoir.
L'année d'après ?
Et l'année d'après, ou à terme, par exemple, dans mon cahier des rêves, j'avais une maison avec des volets bleus,
Alors ça y est, je l'ai.
Elle est où?
Elle est à Meudon, c'est là qu'on vit.
Mais vous les avez peints après, les volets?
Comme Ryan Gosling dans N'oublie jamais, ce film magnifique.
The Notebook.
Une bonne idée, c'est un cahier des rêves.
Ça s'appelle The Secret, en fait.
Exactement.
Ouais. Donc on écrit tout ce qu'on veut.
Mais parce que je pense que la force de la projection est magique. Ça veut dire que quand vous imaginez les choses au point de les sentir, de pouvoir les toucher, de les vivre de l'intérieur, vous vous interdisez de ne pas les vivre dans la vraie vie. Moi, je ne crois pas aux rêves qui restent des rêves, je crois aux rêves qui deviennent réalité. J'ai envie de ça, en tout cas, dans ma vie. Et je veux mourir comme Édith Piaf en chantant, pas comme Édith Piaf, mais en chantant Édith Piaf. Non, je ne regrette rien. Voilà, ça, c'est ma devise. Je sais, je suis un peu folle.
Non, mais c'est vrai, tu connais ce... Alors, en fait, c'est normalement, on met ça, ça s'appelle un dashboard, où tu as un panneau de liège et tu projettes en photo tous tes rêves. Et en fait, à force de les voir et les voir tous les jours, inconsciemment, tu vas aller et agir pour aller vers ça.
Elle a mis la photo de tous les mecs de Boulogne-Billancourt. En espérant qu'un jour, il y en a un qui dise oui.
Absat aussi, on dit souvent qu'en France, contrairement aux États-Unis, les gens n'aiment pas la réussite. Pourquoi, d'après vous?
Je sais pas, je pense que c'est culturel. Je trouve dommage, par exemple, que petit, à l'école, on nous parle pas de l'entreprise. Qu'on oppose tout de suite dans notre société le salarié et le patron. Un patron réussit pas sans ses salariés. Et un salarié a besoin de patron pour avancer aussi. Je pense que c'est... Mes parents m'ont transmis cette valeur du travail. Être digne, qu'on gagne un SMIC ou pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de rester digne, de pouvoir nourrir ses enfants. Moi, j'ai jamais manqué de rien. Et je dis d'ailleurs par provocation à certains journalistes que je viens d'une des familles les plus riches de France quand ils dressent un portrait à la Cosette. Parce que j'ai l'impression que ce que m'ont donné mes parents vaut beaucoup plus que de l'argent. Ce sont des valeurs qui sont chères, qui sont importantes et qui font qu'aujourd'hui, moi, ma première motivation pour réussir dans la vie, vous savez ce que c'était ?
Les rendre fiers.
Honorer le parcours de mon papa. Et ce que je lui devais en tant qu'enfant, c'était d'honorer son parcours en réussissant qu'il n'ait pas fait tout ça pour rien. Europe
1. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Absat Toussi, venu nous parler de son livre Made in France qui vient de sortir aux éditions Hugo et Doc.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi
on est
avec Jean-Philippe Vizini, Léa Landau-Benache et notre invité Absat Toussi veut nous parler de son livre Made in France qui est sorti aux éditions Hugo et Doc. Alors vous dites qu'à un moment, Absat Toussi, vous avez failli arrêter d'écrire ce livre parce que ça sortait trop de choses de vous. Comment ça s'est passé?
Ça sortait beaucoup de choses. Écrire, en fait, moi je ne suis pas écrivain. C'est juste un témoignage, je raconte ma vie et en fait, c'est un peu, je pense, comme un journal intime où je me livre un petit peu. Ouais, il y a des moments qui ont été douloureux parce que ça m'a ressorti des choses que j'avais voulu en cacher ou que j'avais oublié.
Quoi comme chose?
Par exemple, les moments où je quitte le domicile de mes parents et que j'ai l'impression de les abandonner. Et en fait, je pars juste vivre ma vie.
Vous êtes partie à quel âge chez vos parents?
J'avais 18 ans et demi, quelque chose comme ça. Et ça a été un déchirement. Parce qu'il a fallu que je raconte un truc, mais tellement mensonger pour sortir.
Bon, quoi?
Mais tellement pipeau, pardon.
C'était
mais
quoi?
En fait, j'ai inventé... Non, c'était un tout petit peu plus tard, mais j'ai inventé, parce que je venais de rentrer dans une entreprise en contrat à durée indéterminée. Et j'avais envie d'avoir mon appartement. Parce que vous savez, quand vous grandissez à 10 dans un 55 mètres carrés, où vous avez une chambre pour 7 enfants, parce que ma grande sœur avait l'autre, et l'autre, c'était celle de mes parents... Vous avez envie d'un peu de calme parfois.
Votre grande sœur, elle avait sa chambre, il avait 7
parce qu'elle avait déjà des enfants.
Ah oui.
Et donc, effectivement, alors moi j'adorais ce brouhaha, hein, ce bruit permanent, cette vie qu'il y avait quand ma mère demandait le silence et qu'on commençait décorer à 8, c'était génial. Mais parfois, en tant que jeune femme, j'avais juste envie d'un peu d'isolement, un peu de moment à moi. Et c'était le moment pour moi d'avoir tout ça. J'avais l'impression d'avoir donné toute mon enfance à mes frères et sœurs.
Parce que vous étiez un peu en charge de la famille. Comme vous étiez débrouillarde, c'est vous qui faisiez les démarches. Dès l'âge de 13 ans, vous alliez au pressing, c'est ça?
Je dis que j'étais la gamine d'abord la plus riche de mon quartier. Parce que je parquais deux caddies à la sortie de l'école. Et j'allais voir toute la maison de retraite qui était du premier au septième étage de l'immeuble de 18 étages dans lequel je vivais. Et j'allais leur faire leurs courses. Ils me donnaient chacun une pièce de 5 francs, 10 francs. Et ben, ça fait beaucoup d'argent à la fin du mois. Et donc, je faisais les courses avec, mais j'achetais que le fondamental. L'huile, l'eau, le lait, et quelques gâteaux pour mes frères et sœurs.
Et vous gardiez la monnaie?
Non, la monnaie, elle servait à acheter des survêtements de marque à mes frangins pour pas qu'ils aillent piquer pour avoir la même chose que les autres. J'avais pas envie qu'ils envient les autres. Et donc, j'agissais un peu comme une petite maman, quoi. Et donc, toute mon enfance, je me suis sentie le devoir d'aider mes parents. très tôt, j'ai eu conscience que mon père, avec son SMIC, il n'allait pas y arriver. Je me souviens, j'ouvrais ses bulletins de salaire et je le voyais. Et tous les matins, à 7h-10, heure à laquelle il sortait, j'enfilais mes chaussures et je l'accompagnais. Parce qu'il travaillait à 5-10 minutes de la maison et je revenais avec le pain. Mais c'était une façon de dire à mon père, tu ne vas pas travailler que pour toi, tu travailles pour nous, alors c'est normal que je t'accompagne. Et j'ai ces souvenirs en tête, effectivement, qui sont magiques, mais qui sont beaucoup de choses pour une gamine de cet âge-là.
Il vous accompagne au boulot maintenant ou pas?
Non, mais figurez-vous, quand j'ai ouvert mon premier salon, mon père mettait son grand boubou blanc, ouais. Parce que ça, c'était signe de respect. Il débarquait dans mon salon et il allait saluer tous mes clients. Bonjour, comment ça va? Et la famille? Et je disais non, papa, non, enfin, on fait pas ça dans un salon. Il me disait, si les gens sont pas normaux, c'est pas ma faute, je dois saluer quand j'arrive. Et mon père est mon meilleur ami, parce qu'en fait, dès qu'il m'avait pas en ligne une fois, deux fois, un jour, deux jours, c'était pas possible pour lui et c'était pas possible pour moi. Et je me souviens d'un jour de détresse dans ma boîte où j'étais au bord du burn-out, j'étais au fond du trou, j'arrivais pas. Et mon père m'a appelée, je suis rentrée chez moi, je pleurais de toutes les larmes de mon corps parce que j'arrivais plus. Et mon père m'appelle et me dit cette phrase où il me dit « Est-ce que ça va ?» Je lui dis « Ouais, ça va, je me ressaisis. » Et en fait, il me dit « Non, je sais que ça va pas, ça fait 3 jours que j'essaie de te joindre. Tu sais, ma fille viendra un jour où t'essaieras de me joindre et tu pourras plus. » Et en une phrase, il m'a ramené à l'essentiel de la vie, c'est de partager des moments avec les gens qu'on aime et de pas juste courir après le matériel, cette réussite finalement qui n'était pas la mienne, parce que moi j'étais dans une sorte de prison, j'étais dans les médias, mais j'avais un business qui me tuait quoi. Qui me tuait, j'avais 100 salariés à gérer, j'avais 29 ans, mes petits bras, mes petites jambes, j'apprenais tout sur le terrain, j'avais pas fait de grandes écoles, je devais gérer tout ce monde, cette croissance, cette entreprise, et c'était un cauchemar en fait, j'étais pas heureuse. Et ce jour-là, quand il me dit ça, je dis ok. Et c'est ce fameux jour d'ailleurs où il me dit, tu voulais que je sois fier de toi, c'est fait, maintenant il est temps que tu vives pour toi. Et il a conscience à ce moment-là de tous les sacrifices que j'ai fait enfant, effectivement.
Donc vous fermez boutique, on met tout le monde au chômage.
Non, alors ça n'a pas été si facile, c'est très douloureux. Mais à ce moment-là, je décide effectivement de me mettre en redressement judiciaire. Et pendant 5 à 6 mois, on essaye de restructurer tout ça. Et je jette l'éponge, mais avec en tête le fait que je sais que je vais jeter l'éponge. Mais oui, on met des gens au chômage, ça fait mal au ventre, parce que j'en ai qui croyaient énormément dans l'aventure. Mais je me dis, j'ai quand même contribué, j'ai créé plus de 300 emplois, j'ai travaillé comme une dingue, 24 au mois de septembre justement 2013 où j'ai liquidé. Mais oui, toute mon enfance, j'ai beaucoup donné. Et ces professeurs dont je parle beaucoup dans mon livre m'ont accompagnée et me voyaient effectivement à la laverie avec des sacs poubelles 100 litres, avec les vêtements de toute la famille qu'il fallait que je repasse ensuite. Et puis cette vaisselle, je me souviens que je ne pouvais pas faire dans l'évier, qu'il fallait que j'aille faire dans la baignoire tellement il y en avait. Et moi, mon obsession dans ma vie, c'est d'être libre. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, je suis une femme libre. Je peux aller bosser si je veux. Si je veux pas bosser, je bosse pas. Je suis en bonne santé. Et Dieu merci. Et voilà.
Personne ne vous a forcé à venir. Alors, c'est déjà une...
Ah non, et en plus, c'est Anne Roumanoff, dont je suis absolument fan, parce que je sais, et je devrais pas le faire. Ça fait un peu cire-pompe, mais je le dis quand même. Est une bosseuse hors pair.
Ça, voilà, c'est vrai.
À qui on n'a rien donné et qui allait chercher les choses à la force de son poignet et de son talent. Donc, moi, je suis très honorée de venir dans ce genre d'émission où on parle de la vraie vie. Voilà.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Apsa Toussi, venu nous parler de son livre Made in France qui vient de sortir aux éditions Hugo et Doc. Ne bougez pas, on revient.
Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Bizzini, Léa Landau, oui. Ben H et notre invité Apsa Toussi venu nous parler de son livre Made in France aux éditions Hugo et Doc. Alors avec votre mari Vincent Cerruti, vous dites que vous avez eu un vrai coup de foudre.
Ouais.
Ça existe parce que moi j'ai vécu surtout des orages.
C'était comme dans le film avec Ryan Gosling.
Ouais. Mais c'est le film le plus romantique du monde.
Du monde, ouais. On pleure tous.
C'est quoi ce film? Ça s'appelle The Notebook en version originale.
En français, ça s'appelle N'oublie jamais. Et alors, il y a une phrase dedans parce qu'en fait, ça parle d'une personne qui a Alzheimer. Et les enfants disent à un moment au papa, mais rentre à la maison parce qu'elle ne te reconnaît plus. Et il dit, mais c'est tellement chez moi. Ah, ça c'est tellement romantique et beau, j'adore. Ouais. Bah, c'était pareil.
T'as tous
avec
les
Vincent.
Souvenirs de leur histoire d'amour, ouais. Où il lui écrivait des lettres quand il la voyait pas. Non, mais c'est magnifique.
On adore, on est deux loveuses là, je crois.
Vous êtes romantique comme ça, ça
En tout cas, avec Vincent, je l'ai été. Et non, c'est l'amour de ma vie, c'est mon chez-moi, Vincent, c'est sûr. Avec,
vous vous êtes rencontrés comment?
Des montagnes russes à une soirée où ni lui ni moi ne devions aller.
Ouais.
Et finalement, on y va parce que nos deux boîtes respectives nous demandent d'y aller. Moi, C8 à l'époque, et puis lui, TF1. Et au moment où je pars, il arrive, on se croise 3 secondes, on s'est quasiment jamais parlé, si ce n'est par un tweet interposé, mais de façon totalement... voilà, et là, c'est la fin du monde, quoi.
Mais c'est-à-dire, vous partiez, donc pourquoi vous êtes restée ?
Bah parce que ma copine a dit qu'elle voulait goûter les yaourts glacés. Et donc, je l'ai attendue, et à ce moment-là, je croise Vincent, qui arrive, qui est beau, qui est élégant, qui me regarde, comme on ne m'avait pas regardée depuis longtemps. Et là, je me sens plus belle que jamais, parce qu'il me regarde comme ça. Mais non, mais c'est que quand on lit dans les yeux d'un homme un truc si magique... Ouais. On se sent de toute façon belle, c'était magique. Et là, je cligne des yeux comme une gamine de 12 ans, j'ai le cœur qui palpite, je crois que ça se voit, ça fait poum 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 poum. Et j'ai les jambes qui tremblent, et je suis euphorique, mais euphorique. Ça veut dire que vraiment pendant...
Et là, votre copine revient, va bouffer de la glace, va bouffer de la glace.
Non, mais je pars avec mon amie et c'est vrai que je vais être littéralement euphorique. Je fais des bonds, je crie.
Mais là, vous n'aviez pas ses coordonnées
mais... Rien. Il n'avait même pas mon numéro de téléphone. Mais j'avais pas le sien. Et le lendemain, il m'envoie un tweet en me disant, un tweet privé, bien sûr. Oui. Il me dit, je suis ravie de t'avoir rencontré, tu es encore plus belle en vrai. Et je lui dis, je suis ravie de t'avoir rencontré, tu es encore plus beau en vrai. Ah. Et là, on va commencer à s'envoyer des... Pas encore, mais on va déjeuner, un déjeuner qui va durer 5 heures où il ne se passe rien si ce n'est de se parler.
Vous avez mangé quoi ?
Non, ils n'ont même pas mangé,
tu parles. On a mangé très peu et là, moi, je pars en déplacement au Sénégal et on va s'envoyer 200 messages par jour et jusqu'au jour où il me dit mais tu es où là ? Je lui dis je suis à Dakar. Il me dit ben j'arrive.
Non.
Et là, il prend l'avion.
Pas mal.
Il débarque en plein milieu du Dakar, dans l'aéroport, avec tout le brouhaha. Et moi, je suis assise sur une chaise à côté d'un policier qui trône devant, on dirait une scène de film. Et je vois Vincent arriver.
Et alors ? Le baiser tout de suite ou pas ?
Non, pas tout de suite, parce qu'il faut savoir faire attendre. Vous savez, moi, je dîne, je prends mon appétit dehors, mais je dîne toujours à la maison. Donc,
celle-là, j'adore.
Donc voilà, et puis à un moment, c'est plus fort que lui. Et il m'embrasse de toute sa force. Et là, c'est magique, quoi. Et voilà. Et de ce moment-là, j'ai su, voilà.
C'est beau, ça.
Ouais. Mmh.
Ben H a des choses à vous dire,
Absatou. Ouais, c'est pas à nous que ça arriverait, une histoire comme ça.
Pourquoi ? Ça peut arriver.
Pas. On verra.
Ça peut arriver.
Ça arrive, surtout quand on s'y attend pas.
Bah ouais, mais ouais. Faut qu'on aille à plein de soirées où on doit pas y être, Anne. Allez.
Ben H a des choses à vous dire, Absatou.
Oui, Absatou. De l'audace, de l'ambition, beaucoup de courage et disons-le franchement, une grande gueule. Dis ce qu'elle pense et je suis ravi du coup et séduit ce midi de vous rencontrer, Absatou. J'ai en face de moi une femme, chef d'entreprise depuis l'âge de 24 ans, on l'a dit, fondatrice de la marque baptisée Absatou, femme de médias qui a sa propre chaîne de télé baptisée Absatou TV. Absatou, mais où allez-vous donc chercher votre inspiration pour les noms de marque comme ça, hein? Vous venez nous présenter votre livre Absatou aux éditions Absatou, livre que vous retrouvez dans toute librairie de l'enseigne Absatou, livre qui vous est proposé au prix dérisoire de 17 Absatou, une crypto-monnaie créée par Absatou en l'an 36 après Absatou. Alors je taquine gentiment, mais moi je chronique chaque semaine depuis 2 ans et je n'arrive toujours pas à me faire connaître mon nom, alors qu'Absatou si. Non, déplaise à ceux qui ne l'aiment pas votre nom, vous en êtes fait un à la force de votre tempérament et de votre ténacité. Un exemple pour bon nombre qui pensent que tout peut arriver, tout cuit. Je vois mon petit frère par exemple, il veut devenir acteur depuis des années. Il a dit moi je veux jouer dans un film comme Intouchable. Et je lui rappelle alors qu'il ne suffit pas de faire des stories sur Instagram, lui qui ne prend même pas de cours de théâtre, alors qu'à l'époque Omar si. Absatou, vous êtes jeune, vous connaissez une réussite professionnelle stupéfiante, vous êtes très heureuse en amour, on vient de le dire, et bientôt mère d'un deuxième enfant. Tout vous réussit et le bonheur semble être au rendez-vous. Donc pour trouver un petit point commun entre vous et Léa Lando dans ce papier, il faudrait éventuellement que je parle de cheveux. Mais Absatou, vous recevoir fut aussi l'occasion de me rendre sur votre site internet qui, au-delà d'exposer vos produits de beauté et votre chaîne de télé, le site est truffé de petits conseils entre beauté et bien-être. Et vous le savez peut-être, mais moi la beauté et le bien-être, c'est un peu ma spécialité dans l'émission. Hashtag crème de jour, hashtag summer body, hashtag non je déconne, vive la bière et la pizza. Et j'ai donc surfé sur les pages de votre blog à la recherche de conseils et autres astuces qui pourraient me rendre plus belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je dois reconnaître que si j'ai adoré l'article « Quelle teinte de crayon utiliser pour maquiller ses sourcils ?», je serais plus mesuré sur votre classement du top 5 des mascaras. À titre personnel, j'ai été particulièrement déçu par le numéro 4 du classement. À part ça, un parcours de battante, une femme ancrée dans sa génération, et c'est exactement ce que raconte ce livre. Enchanté, Absatou.
Merci beaucoup.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Absatou, venu parler de son livre Made in France qui vient de sortir aux éditions Hugo et Doc. Ne bougez pas.
Romanov sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Bizini, Léa Londo-Benach et notre invité Apsa Toussi venu nous parler de son livre Made in France qui vient de sortir aux éditions Hugo et Doc. Alors Apsa Toussi, quand vous avez lancé votre marque à 24 ans, votre salon de beauté, vous racontez pendant 15 jours, il n'y avait pas un seul client. J'ai donc commencé à avoir des doutes. Du coup, j'ai pris une cinquantaine de jeunes femmes à qui j'ai mis des t-shirts avec le nom de ma marque. On a débarqué chez Cathy Guetta, avenue Georges V à Paris. Dès le lendemain, j'avais mon téléphone qui sonnait non-stop. On avait mis des flyers sur toutes les tables qui disaient « Ethnicia arrive en France ». Du coup, tout le monde pensait que ça venait des États-Unis, alors qu'en fait, ça venait de Paris, de ma petite tête.
C'est très vrai. Non, c'était surtout une scène de désespoir au départ. Parce que moi, j'ai démarré, je pensais que ça allait faire comme les soldes. Il allait y avoir plein de monde et en fait, il n'y avait personne. Et effectivement, au bout de 15 jours où je n'ai plus un euro pour rendre la monnaie puisque j'ai tout mis dans mon business et que c'est la première fois de ma vie que je dois rentrer chez mes parents pour manger, je trouve ça tellement dur qu'il faut que je trouve une idée. Et je trouve effectivement cette idée, on déchire des t-shirts pourris, on écrit au marqueur dessus le nom de ma
marque. Carrément au marqueur ?
Ouais, au marqueur. Les flyers, on les a fait avec une imprimante qui rendait l'âme à chaque impression. Et on arrive devant cette boîte de nuit qui appartenait à Cathy Guetta à l'époque, effectivement. Et je dis, j'ai rendez-vous avec Cathy Guetta, ce qui est absolument faux. Et elle débarque 15 minutes après, je lui dis, j'ai 50 filles. On est là pour faire la promo de ma marque, je suis jeune entrepreneur comme vous l'avez été. Elle m'ouvre les portes, elle me dit, alors vas-y. Et ça, c'était génial, c'était magique, ouais.
Elle a été sympa.
Mais c'est drôle parce que ces 15 jours-là, ils ont été faits on parlait de chance tout à l'heure, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a eu cette rencontre avec Cathy Guetta. Et il y a eu ce jour où j'ai plus, mais vraiment plus rien. Et je suis en voiture vers chez moi, je tombe en panne d'essence. Et je ne peux pas mettre d'essence, je n'ai plus d'argent. Donc je me mets sur le bas de la route, je mets la voiture sur le bas de la route et je rentre à pied. Je rentre chez moi, j'ai un bocal où j'ai 20 euros dedans, je les prends. Et je rentre dans un bureau de tabac et j'achète tout en jeu à gratter.
Non.
Et je gagne 500 euros au banco et 2000 euros au tac au tac. Et je me dis là, s'il n'y a pas un signe,
oui, ça
ou
c'est
une chance,
oui,
ou autre, oui, je ne sais pas comment ça s'appelle.
J'ai 20 balles, je vous les file. Vous allez m'acheter des tickets.
Et je gagne 2500 euros ce jour-là. Je rentre chez moi, je remplis mon frigo, j'achète plein de trucs que je voulais m'acheter depuis longtemps. De
et
chocolat,
la voiture, vous
de
l'avez
machin.
Laissée sur le bord de la route ?
Ouais, et je vais aller la chercher le lendemain. Ah. À la fourrière.
Bah oui, 300 balles, c'est pas grave. Voilà.
Et c'est 2000 balles à la fourrière. Ouais, ouais.
Non, c'est drôle parce que
c'est quand les étoiles s'alignent. Quoi.
C'est les étoiles, ouais. J'y crois beaucoup.
Mm. Léa Londo a des questions à vous poser, Apsa Toussi.
Oui, Apsa Toussi. Alors, il y a quelques jours, nous recevions Frédéric Chaud pour son film Made in China. Aujourd'hui, vous, pour votre livre Made in France. Et là, je me suis demandé à quand le doc sur ma vie sentimentale appelé Made in Désert de Gobi. Et en attendant sa sortie, je vous ai préparé non pas une interview Made in France, Apsa Toussi, mais une interview franchouillarde.
Ok.
Apsa Toussi, dont les initiales sont HS, mais alors vous en êtes loin, 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 hein, tellement vous êtes vaillante.
Et Vincent, c'est WC.
Vous faites WC, la terre. HS. C'est vrai. Bon, alors le plat franchouillard que vous aimez le plus, Apsa Toussi, c'est la choucroute, la bouillabaisse, le bœuf bourguignon.
Le bœuf bourguignon.
Ah ouais ?
Ah ouais.
Vous le faites ?
Non, je le mange.
La région de France où vous aimeriez vivre ?
Moi, j'aimerais vivre dans ce petit village qui s'appelle Belcastel. Magnifique. Absolument canon.
C'est où ?
C'est près de... C'est dans l'Aveyron.
Ah ouais ?
C'est dans l'Aveyron, il faut aller s'y perdre. C'est une carte postale, c'est sublime.
Le maire de France que vous aimez le plus, Hidalgo à Paris avec Paris Plage, Colomb à Lyon ou Estrosi à Nice ?
Ah, moi j'aimais bien Monsieur Colomb.
Ouais.
Parce que je trouve que c'est un monsieur, je sais pas, qui est touchant. Mais je trouve qu'Anne Hidalgo, qu'elle soit détestée ou pas, c'est quand même, pour une femme...
Ce qu'elle porte.
Ouais. Mais ma femme politique préférée reste Roselyne Bachelot et j'arriverai pas à en citer une autre. Elle n'est pas mère, c'est dommage.
Parce que vous avez travaillé ensemble ou...
Parce que c'est un coup de cœur absolu. C'est une femme à la culture incroyable, capable de s'asseoir à côté de vous et de vous dire « explique-moi ça ». Et je la trouve tellement drôle et tellement géniale.
C'est vrai qu'elle est drôle.
Ouais.
Quel est l'atout principal de la France pour les touristes, à votre avis, à ce souci ? L'architecture ? Non, c'est pas l'accueil. Les quatre saisons, justement, ou le French Kiss ?
Le French Kiss.
Ah
ouais.
Bon, vous êtes une femme d'affaires, on en a parlé souvent. Alors, est-ce que vous pensez que le rêve français peut être aussi fort que le rêve américain ?
Et il peut être même plus fort. Et je pense qu'il y a plein de jeunes qui l'écrivent et qu'il faut braquer les caméras sur eux. Et vous allez voir, c'est ce que je dis dans mon livre, ça irradie. Ça irradie, ça en contamine beaucoup. Donc moi, je crois au rêve français. Et je crois que la simple chance d'aller à l'école gratuite et de pouvoir avancer dans la vie avec des gens qui croient en vous. Moi, les premiers à m'avoir dit qu'ils croyaient en moi, c'était mes profs. Et alors, je trouve que déjà, ça permet de commencer à écrire les premières pages du rêve français.
Et alors, pour revenir à Made in France, vous diriez qu'Anne Roumanoff, bien qu'avec son nom russe, ses yeux chinois et sa silhouette tunisienne, a tout d'une femme, a tout d'une femme Made in France.
Elle a tout, elle a tout. Elle a surtout l'inspiration qu'il faut pour les femmes qui veulent être Made in France.
Merci, Abset aussi.
L'histoire de la semaine.
On a une tradition dans cette émission, Absatou. Oh. Chaque lundi, on démarre une histoire. À vous de la poursuivre. Mm-hmm. L'histoire a été démarrée hier par Philippe et Sylvain Tesson. À vous de la poursuivre avec un mot tiré au hasard dans ce chapeau, en une phrase.
J'accoucherai en talon de 12.
Il y a écrit, talon. Ah, on écoute ce qu'ils ont fait.
C'était dans le métro, en allant au festival de Grignan, que j'ai commencé une longue correspondance.
Et là, un homme s'installe en face de moi et me regarde jusqu'à ce que je sorte mon talon.
Merci Absatoussi d'être passé nous voir. On rappelle ce livre Made in France qui vient de sortir aux éditions Hugo Doc. Et puis votre chaîne, donnez le nom de votre chaîne YouTube.
Absatoussi.
Absatoussi, on l'a dit.
Tout s'appelle Absatoussi.
Même moi. On s'appelle, on vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. Nous, on sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.